Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026. On vient de boucler cette première semaine de l'année. Quand on suit les marchés financiers avec passion depuis longtemps, comme je le fais, avec passion, c'est peut-être un peu gonflé, mais disons que quand on suit les marchés depuis longtemps, comme je le fais, il y a une chose que l'on développe, c'est la capacité d'identifier les séances qui ne servent à rien. Je vous le dis tout net, la journée d'hier en fait partie. Je n'invente rien, les indices n'ont pas bougé, et la seule chose que l'on arrive à raconter, c'est qu'il y a eu des rotations de secteur. À ce stade-là, c'est plus de la rotation de secteur, c'est de l'indécision, selon moi. Bref, hier on a attendu, aujourd'hui et ce matin, on attendra cet après-midi. Oui, cet après-midi, parce qu'on ne va pas se mentir, on peut brasser de l'air tant qu'on veut sur ce qui s'est passé hier. Au-delà des nouvelles déclarations de Trump sur des sujets divers et variés, les intervenants n'attendent qu'une chose, les chiffres de l'emploi tout à l'heure. C'est pas que ça va nous changer la vie, mais c'est surtout le fait qu'on va pouvoir commencer à reparler de la Fed et de ce qu'elle va faire sur les taux. Et du coup, ça nous permettra d'avoir au moins un sujet de discussion jusqu'à la fin du mois. Sujet qui sera, alors, la Fed, elle va baisser les taux ou elle va rien faire? Un sujet que l'on connaît bien et que l'on maîtrise depuis plus de 2 ans et qui, ne nous le cachons pas, à défaut d'être passionnant, anime nos discussions lors du traditionnel apéro de vendredi soir. Hier, il y a eu des chiffres économiques qui sont sortis. On en a parlé, il y avait les jobless claims qui étaient à 208 000 nouvelles demandes d'indemnité chômage contre 213 000 attendues. C'est donc une bonne nouvelle. On va dire que sur la semaine, l'emploi va moins mal que prévu. Oui, je le reconnais, c'est un petit peu tiré par les cheveux du Père Noël, mais ça nous occupe au moins la mémoire à court terme. Je dis à court terme parce que ce chiffre sera oublié dans les 3 prochaines heures. Faites-moi confiance. Par contre, hier, tout le monde s'est excité sur le déficit commercial américain d'octobre, qui était bien plus faible que prévu, le plus bas depuis 2009. Chiffre qui est donc appelé à soutenir la croissance du PIB du dernier trimestre 2025. D'ailleurs, les experts ont déjà commencé à revoir leurs attentes à la hausse. J'en veux pour preuve la Fed d'Atlanta, qui a déjà augmenté ses attentes de PIB à 5,4% contre 2,7% auparavant. Comme vous le voyez, on ne fait pas dans la demi-mesure dans le monde merveilleux des spreadsheets Excel. Notons quand même que tout le monde n'est pas aussi convaincu, parce que selon les experts du côté obscur de la force, cet embellie masque des anomalies liées aux importations pharmaceutiques et aux exportations de métaux précieux. Des facteurs exceptionnels peu susceptibles de se reproduire, en gros c'est pile ou face, mais pas de quoi se rouler par terre dans du caviar non plus. En résumé, tout le monde attend ce soir pour voir si les 66 000 créations d'emplois prévues par les visionnaires de la finance est un chiffre qui tient la route, et voir si on peut commencer à prendre des paris pour les baisses des taux à venir. Finalement, en relisant ce que je viens de vous écrire ce matin, j'ai pas l'impression que quelque chose a changé en 2026. Tout ce que l'on discute actuellement, c'est saut 2025. Si l'on se concentre d'ailleurs sur ce qui s'est passé sur les marchés hier, en observant les clôtures, simplement les clôtures des indices du monde entier, on pouvait déjà largement se dire que la journée était chiante, comme la météo de ce début de mois de janvier. Il n'y a que le Dow Jones qui semblait un peu dynamique, et autant vous dire que quand on en est à se dire que le Dow Jones était l'indice le plus excitant de la journée, c'est que la journée était hyper longue, peut-être même hyper très très longue. Et c'était pas mieux en Europe, puisque le DAX était en hausse de 0,02%, le CAC de 0,12%, la Suisse de 0,2% et l'Italie de 0,25%. On a connu plus excitant comme journée de trading. Aux USA, il faut tout de même retenir que la Big Tech s'est pris une petite claque, moins 0,44 sur le Nasdaq, c'est un peu comme si les stars de l'équipe avaient été envoyées sur le banc de touche. Résultat, le secteur de la tech est un des deux seuls à être dans le rouge cette année, pour l'instant, avec les utilities. Apparemment, les puces et les serveurs, c'est devenu has-been, même si ça nous excitait comme des fous il y a 3 jours. Il faut tout de même reconnaître que dans ce marché de 2026, il y a une constante assez impressionnante, c'est notre capacité à tourner la veste à la vitesse de la lumière. Pendant que les géants de la tech faisaient la gueule, le Russell 2000 continue de prolonger la fête, plus 5% depuis le début de l'année. Les investisseurs se sentent d'humeur chafouine et veulent prendre des risques en pariant sur la baisse des taux à venir qui va favoriser inévitablement le team small cap. Ils ignorent royalement les tensions géopolitiques et le climat politique US un peu électrique pour parier sur la croissance économique réelle. C'est ce qu'on appelle l'optimisme ou de l'audace, c'est selon. Et puis dans la série, il y en a qui conteste, qui revendique et qui proteste, et que moi je fais qu'un seul geste et retourner ma veste, eh bien on renotera la valse des positions sur certains secteurs. Je m'explique. En général, quand vous vendez la tech pour aller acheter des défensifs, par exemple, on appelle ça une rotation de secteur. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire il y a encore une petite dizaine d'années, c'était des tendances qui duraient sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Aujourd'hui, on a de plus en plus de rotations de secteurs en 24 heures, ce qui laisse supposer qu'on peut avoir deux rotations en 48 heures et jusqu'à 5 en une semaine. En gros, sur une semaine de rotation de secteur, à la mode année 2020, on peut se retrouver le vendredi avec les mêmes positions que le lundi, tout en ayant changé trois fois de secteur entre deux. Bon, vous l'aurez compris, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous expliquer que le thème rotation de secteur commence un tout petit peu à être utilisé à toutes les sauces, un peu trop à toutes les sauces, et ça devient juste n'importe quoi. Et je pèse mes mots. Soyons clairs, on ne change pas de secteur toutes les 24 heures. Sur ce genre de durée, ça s'appelle du tournage de veste. Et là, depuis quelques jours, on est passé en style tournage de veste, mais en mode Ligue des Champions. Oui, parce que si on observe juste la séance d'hier, l'énergie a réexplosé à la hausse après s'être fait démonter la séance de la veille parce que le Venezuela et tout ce que ça allait coûter faisait un peu peur. Mais hier, on a pris le chemin inverse et c'est reparti à la hausse dans le sillage du pétrole et de Chevron qui demandaient une licence pour exploiter le pétrole local. Il ne faut pas venir me dire que c'est de leur rotation de secteur et que soudainement on vendait la tech et l'IA pour acheter de l'énergie. C'est juste qu'on ne sait plus où on en est et comme Trump balance des news toutes les 12 secondes sur n'importe quel sujet, on s'adapte et on suit le mouvement tout en changeant d'avis 9 fois par jour si nécessaire. Et ça n'arrive pas que sur l'énergie puisqu'on a vécu la même chose sur le secteur armement, fusées et trucs qui font du bruit. Avant hier, Trump veut leur interdire de payer des dividendes et le jour d'après, il veut augmenter le budget du ministère de la guerre de 50%. En résumé, si on prend l'action Lockheed Martin, elle perdait 4,8% mercredi après le coup des dividendes et hier, elle reprenait 4,4% sur l'histoire du budget de la défense américaine. D'ailleurs, anecdote croustillante, on retiendra quand même que cette explosion de budget militaire demandée par Trump pourrait entraîner un immense déficit supplémentaire. 600 milliards, quand même. Et ça interroge sur le risque de participation des USA à de nouveaux conflits dans le monde, avec une enveloppe équivalente aux 50 plus gros budgets défense des pays classés du second rang à la 51e place, derrière les États-Unis. Pour donner des chiffres, si les USA ont un budget de 1500 milliards, la Chine n'est qu'à 267 milliards, la Russie 126, puis l'Inde à 75 et les Anglais à 71,5. Et le Japon est 7e avec 57 milliards. Et pendant ce temps-là, selon les projections, les USA atteindront une dette de 40 000 milliards au mois de septembre. Bref. Hier, on a tourné la veste sur l'énergie, on a trouvé la défense à nouveau très très cool, on a pris des profits sur la tech et on attend les chiffres de l'emploi qui seront publiés à 14h30. Dans les choses qu'il faut garder en mémoire, ce matin, on notera que Rémy Cointreau a explosé hier en plein Dry January. La compagnie a fait des commentaires légèrement positifs lors d'un appel téléphonique précédant la publication des résultats du troisième trimestre. Heureusement que c'était que légèrement positif, sinon elle doublait. Et puis, il y a une boîte chinoise qui s'appelle Anta Sport Product qui propose d'acheter 29% de Puma auprès de la holding familiale de François Pignot. À la place de faire de la contrefaçon, la Chine commence à acheter l'original, histoire de gérer les deux business en parallèle. Autrement, on en arrive gentiment au Trumpisme du jour, qui vont généralement par deux. Oui, alors je vous explique. Apparemment, dans sa stratégie de réseaux sociaux, Trump, selon les statistiques, publierait des annonces deux fois par jour en moyenne. Quand il ne publie pas, c'est qu'il est dans le coma ou qu'il fait du sport pour entretenir son corps d'athlète. Donc, hier, là tout de suite, les derniers trucs en date, c'est le fait qu'il va rencontrer les patrons des grosses boîtes pétrolières aujourd'hui et qu'il a déjà annoncé que le secteur de l'énergie allait investir 100 milliards de dollars au Venezuela. Trump, c'est le mec qui a la mode dans ton porte-monnaie et qui te dit comment tu vas dépenser ton argent. Et au moment où tu demandes si tu peux dire quelque chose, tu te rends compte que dans l'autre main, il a un Magnum 44 pointé sur ta tempe. Mais le président ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a annoncé son intention d'ordonner l'achat de 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. L'objectif affiché, c'est de faire baisser les taux d'intérêt et de rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les Américains. Selon les calculs théoriques, cette décision ferait baisser les taux hypothécaires de 0,25%, mais les experts doutent de l'efficacité réelle de cette intervention massive. Ils estiment que le montant n'est pas suffisant pour influencer durablement les taux du marché. De plus, une baisse des taux pourrait faire grimper le prix par manque d'offres. Au milieu de cette avalanche de posts quasi bijournaliers sur Truth Social ou X, il y a une chose qui est assez récurrente, c'est qu'à chaque annonce, cela soulève des contestations et à chaque fois, on a l'impression que c'est juste une punchline qui a été inventée par ChatGPT et qui a absolument rien de concret derrière. Je suis en train de me dire que je vais ouvrir une nouvelle rubrique dans cette chronique, les Trumpismes du jour, et on va creuser le sujet et faire des statistiques. Et les marchés asiatiques ont affiché une certaine hésitation ce matin, marquée par un recul du secteur tech. En Corée du Sud, les géants de la tech comme Samsung et Hynix ont pesé sur l'indice Kospi après ses récents records. Et à l'inverse, le Japon s'est distingué avec un Nikkei en hausse de 1,5%, porté par l'affaiblissement du yen qui favorise les exportateurs. En Chine, les nouvelles sont encourageantes. L'inflation a atteint un sommet en 3 ans, 0,8% en décembre, signalant une reprise de la demande et la fin potentielle, je dis bien potentielle, d'une longue période de déflation. Les indices chinois ont réagi positivement à ces données. On notera aussi que la performance du secteur de l'armement en Chine aujourd'hui est spectaculaire. Inutile de chercher pourquoi, le budget de Trump ne restera pas sans réponse du berger à la bergère. Prenons maintenant le temps de parler 2 minutes du pétrole. Le baril repart à la hausse et ce rebond efface les pertes du début de semaine portées par une accumulation de tensions géopolitiques majeures. Tout d'abord, les tensions Russie-Ukraine sont toujours là, même si on n'en parle plus. Les marchés craignent de nouvelles perturbations après une attaque de drones contre un pétrolier en mer Noire et la perspective de sanctions américaines encore plus strictes contre Moscou. Trump a également menacé le monde entier d'une taxe douanière de 500% si quelqu'un achetait du pétrole russe. Ensuite, il y a la crise en Iran. Le pays est secoué par de violentes manifestations pro-démocratie depuis une dizaine de jours. Le régime est jugé en difficulté, ce qui fait planer une menace directe sur la production et les exportations de Téhéran. Manquerait plus que Donald envoie la Delta Force. Ça se calme aussi sur le Venezuela et les craintes d'une inondation immédiate du marché par le brut vénézuélien s'apaisent. Le Sénat américain a limité la liberté d'action militaire de Trump et les experts soulignent que l'infrastructure pétrolière du pays est trop dégradée pour une reprise rapide de la production. Et puis, pour terminer, il y a la Chine qui semble redémarrer selon les chiffres de ce matin, chiffres qui pourraient être infirmés par d'autres la semaine prochaine, mais pour l'instant ça repart en Chine, donc ils vont consommer, donc le pétrole remonte. Donc ce matin le baril est à 58,37, l'or est à 4483, l'argent est à 76$ et des poussières, le bitcoin est à 91 000$ et du côté des rendements, le 10 ans US est à 4,18 et est passé par les 4,20 hier. Quant au 10 ans japonais, il est toujours à 2,09. Pour le reste, on notera quand même que la Cour suprême pourrait rendre aujourd'hui sa décision sur la légalité des tarifs douaniers imposés par Donald Trump via la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence, le IEEPA. L'enjeu est de savoir donc si le président peut légalement utiliser cette loi, normalement réservée aux sanctions internationales, pour instaurer des taxes commerciales sans l'accord direct du Congrès. On n'en sait pas plus, mais ça pourrait rajouter une couche d'excitation dans ce marché passionnant. Pour le reste, on va attendre le prochain tweet de Trump et les chiffres de l'emploi, les fameux NFP qui sont attendus à 66 000, avec un taux de chômage à 4,5%. Je vais donc vous laisser vaquer à votre vendredi et on débriefera tout ça dans la chronique de lundi. D'ici là, profitez bien de ce marché dirigé et tenu par Trump. Passez une excellente journée et un très bon week-end. À lundi.